Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 11h21, on est en direct au Grand Palais, magnifiquement rénové, absolument magnifique. Alors, intéressant tout à l'heure, puisque j'animais une conférence, et merci les amis, parce que vous êtes sur Radio Immo et sur Territoria, sur laquelle on disait finalement un bâtiment éphémère est devenu plus éphémère du tout, puisqu'il est ancré dans le paysage. On est ici au Grand Palais pour l'édition 2025 du CIPCA, Salon Immobilier Bas Carbone. Voilà, j'ai animé cette conférence justement avec l'une des grandes dames de l'immobilier. Elle est présidente du directoire de CDC Habitat et elle nous fait l'honneur d'être sur le plateau. Bonjour Anne-Sophie Grave.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir pour ce salon du CIPCA.
Bon, j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec vous depuis quelques années maintenant. On commence à bien se connaître. Vous êtes une patronne d'un groupe immobilier justement avec CDC Habitat qui est très engagé pour la diversité, engagé pour la biodiversité, les modes constructifs, beaucoup d'innovations. On a parlé de cette conférence, quel logement construire, comment vivre avec 4 degrés en 2050 et quel logement rénover. Et je me rappelle quand on avait préparé cette thématique, vous m'aviez dit de toute façon tout est déjà existant donc il faudra faire avec, il faut travailler là. Et vous avez chez CDC Habitat sur l'existant, sur le bâti, aujourd'hui travaillé de façon très 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 optimiste et très engagée sur des véritables innovations. Est-ce qu'on pouvait décrire d'un point de vue presque totémique ou iconique quelles sont les grandes innovations que vous avez mises en place, et notamment ce fameux diagnostic de performance résilience que vous avez mis au point?
Oui, alors c'est vrai que vous le rappeliez, hein, 85 des bâtiments actuels seront encore en usage en 2050.
Eh oui.
Donc on voit bien qu'on a un enjeu majeur sur le parc existant. Donc CDC Habitat avec nos 560 000 logements, effectivement c'est pour nous un enjeu majeur. On a beaucoup traité, ces dernières années, on a éradiqué les passoires énergétiques, donc on a fait des isolations thermiques par l'extérieur. Et en fait ça c'est aussi, très favorable pour le confort d'été. Et donc depuis maintenant, c'est encore assez récent, hein, depuis 4-5 ans, dans les réhabilitations qu'on peut faire, on intègre bien davantage le confort d'été. Alors vous parlez des innovations, mais il y a des solutions d'abord de bon sens, hein, donc les occultations, les brises soleil, mais on voit bien qu'avec plus 4 degrés, il faudra encore aller plus loin. Donc comment aller plus loin sans forcément avoir recours par exemple à la climatisation?
Par exemple, oui.
Donc nous sommes en train de travailler en fait sur une cartographie de notre parc pour identifier là où sont des îlots de chaleur urbains. Donc on part d'indicateurs du CEREMA qui vont prendre en compte la morphologie du bâtiment, l'occupation des sols, la couverture végétale. On croise ça avec la cartographie des températures et ça nous permet en fait de détecter sur notre patrimoine où sont les îlots de chaleur urbains. Et donc quand on va venir en réhabilitation, on va venir en fait désimperméabiliser des sols, on va venir renaturer, ramener de la nature pour créer en fait des îlots de fraîcheur. Donc ça c'est une première approche. Ça peut être aussi en termes d'innovation, on a testé, ça marche, et donc maintenant on déploie en fait des peintures réfléchissantes sur les toitures, ce qui permet en fait de diminuer la température de l'ordre de 2 à 6 degrés sur les logements qui vont être dans les derniers étages, sur la ressource en eau, qui est un enjeu aussi majeur. On va de plus en plus vers, alors bien sûr, le recyclage des eaux pluviales, mais aussi maintenant, on expérimente le recyclage des eaux grises. Donc, on est bien là aussi sur de l'économie de ressources. Et puis, vous avez évoqué la résilience des bâtiments. Alors, effectivement, pourquoi on travaille sur ce sujet-là? Parce qu'on a cette conviction au-delà du réglementaire. Aujourd'hui, le réglementaire, on a effectivement diminution des consommations énergétiques, diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ça, effectivement, on le traite. Mais notre conviction, c'est que l'enjeu de demain, c'est aussi de regarder si nos bâtiments sont résilients face aux événements climatiques majeurs. Malheureusement, on voit que ces dernières années, ces événements climatiques majeurs qui peuvent être des tempêtes, des inondations, de fortes épisodes de chaleur sont à la fois de plus en plus fréquents et d'une intensité plus forte. Donc, est-ce que dans ces cas-là, nos bâtiments vont être résilients? Donc, on a mis au point une méthode, on appelle ça un DPR, diagnostic performance résilience. On a pris les scénarios du GIEC. On a regardé là où nos bâtiments sont le plus exposés à ces événements climatiques. On a regardé la vulnérabilité de nos bâtiments en prenant les différents composants d'un bâtiment, c'est-à-dire les fondations, le clos couvert, la structure, et en se disant bah voilà, comment il faut renforcer le cas échéant, ou pas, si le bâtiment, on se dit, le diagnostic, il va bien
oui,
résister.
Voilà.
Mais par contre, à certains endroits, ça demande effectivement de venir conforter. Nous, on a chiffré ça à peu près à 4000 euros par logement, quand même. Donc,
ah mais c'est énorme.
Et pas des petits budgets quand il faut intervenir. Et donc, on essaye de le faire, si vous voulez, quand on... Quand on avait décidé de faire une réhabilitation, maintenant systématiquement on se dit bah, autant faire en même temps ce confortement et assurer la résilience dans le temps.
Est-ce que vous avez planifié justement, quand on voit le volume de votre parc hein, et les investissements gigantesques hein, ce que ça représente, vous avez planifié tout ça, tout a été planifié?
Alors,
mise en œuvre de cette méthodologie d'ailleurs que d'autres pourraient utiliser d'ailleurs.
Exactement, mais elle est à disposition.
C'est formidable parce que vous avez upgradé véritablement en tenant compte d'un certain nombre de paramètres et je pense qu'on se rapproche d'une véritable réalité parce que le mot porte bien son nom, DIAG. Donc le DIAG peut dire il n'y a pas besoin et le DIAG peut dire là il faut faire quelque chose.
Voilà. Alors sachant qu'on le fait quand même prioritairement là où selon les cartographies, hein, en fait. On a ce patrimoine qui est le plus exposé.
Et oui.
Donc ça réduit quand même du coup, hein, je dirais, le
périmètre. Oui, ça, vous arrivez à segmenter dans le portefeuille, finalement, dans le volume, là où il y en a le plus besoin, enfin, où c'est le plus opérant.
Oui, on va retrouver, hein, par exemple, sans surprise, les régions du Sud.
Enfin, oui, bah oui.
PACA, Occitanie.
Oui.
Arc-Atlantique,
éventuellement.
Oui, alors là, ça sera plutôt le retrait du trait de coupe.
Oui.
Enfin, mais ça, on est moins concernés, nous. Mais voilà, donc c'est plutôt, j'irai sur ces zones-là. Et par contre, là, effectivement, de dire... Et alors, on le fait aussi sur le neuf. C'est-à-dire qu'on va faire sur l'existant à peu près 500 diagnostics par an, donc de résidence. Hein,
oui.
Un diagnostic, c'est une résidence. Et puis... Bah, ce qui est bien aussi, c'est d'anticiper sur gérer la construction nouvelle. Et donc, on le fait aussi dès le démarrage sur gérer une construction nouvelle.
Dernière question, on a évoqué effectivement les difficultés qu'ont les politiques à gérer des équations de volume, de démographie, et parfois même de sobriété. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, Christophe Béchon parlait, on a même des élus qui planifient une récession démographique pour eux, volontaire. Ils affichent la couleur, ils veulent moins d'habitants. Ça ne va pas être simple de gérer toutes ces contraintes. Quand on est justement aujourd'hui à la tête de CDC Habitat avec un portefeuille de logements existants qui est important, est-ce que aujourd'hui la direction qui est faite sur l'aménagement du territoire, sur le zéro artificialisation net, sur la prise en compte des éléments climatiques, vous paraît-elle suffisante? Et comme rappelait tout à l'heure Cécile Lebert, directrice générale adjointe de CRUIA, est-ce qu'il ne faudrait même pas aller peut-être même plus loin que la réglementation elle-même? Et je sais que vous avez toujours été très en anticipation par rapport à cette fameuse réglementation.
Alors c'est vrai qu'on essaye, si on prend l'exemple de la RE2020, nous on essaye
par exemple,
d'anticiper un peu les seuils, ne serait-ce que pour apprendre aussi, hein, puisque ce sont des évolutions quand même de façon de produire, donc il faut s'approprier, je dirais, ces nouvelles réglementations, donc on essaye chaque fois d'anticiper un peu ces échéances. Mais au-delà de ça, par rapport à votre question qui était aussi en lien avec la démographie, on peut prendre l'exemple du logement étudiant. Logement étudiant aujourd'hui,
un vrai problème.
On est vraiment dans les périodes là de rentrée universitaire. Effectivement, c'est une vraie difficulté. Donc nous produisons, nous gérons hein, 20 000 logements étudiants, nous en produisons énormément. Mais aujourd'hui, si vous voulez, quand on regarde la natalité d'aujourd'hui, ce seront les étudiants dans 18 ans, 20 ans. Et donc, aujourd'hui, on a une baisse de la natalité. Donc, par rapport, effectivement, à cette production de logements étudiants que nous allons faire, moi, je demande aux équipes de travailler dès à présent à ce que ces bâtiments puissent être réversibles. C'est-à-dire, aujourd'hui, effectivement, il va être construit pour de l'étudiant, mais demain, il faut qu'il puisse avoir un autre usage.
Et
ça veut dire aussi que dans leur localisation, il faut qu'à la fois le mode constructif permette la réversibilité. Aujourd'hui, c'est de plus en plus possible, notamment avec des structures bois, hein, par exemple, mais aussi que la localisation se dise demain, voilà, comment on transformera ce bâtiment. Autre exemple dans la façon de faire la ville aujourd'hui, dans les modes de production, c'est que de plus en plus, on va sur du recyclage foncier. C'est-à-dire que c'est vertueux à tout point de vue, parce qu'on va prendre une surface complètement minéralisée, donc ça peut être Je pense par exemple à Thiers-Orly, c'est une zone de logistique donc complètement imperméabilisée, 14 hectares. On va en renaturer 7 hectares, mais on va à côté de ça créer des logements, donc un nouveau quartier complètement éco-conçu, conception bioclimatique, éco-matériaux, forêt urbaine. Enfin voilà. Aujourd'hui, c'est toutes ces composantes-là. Quand on crée un quartier, il faut qu'il y ait cette cohérence d'approche. En fait, sur qui va être la cohérence, bien sûr, sur le bâti, mais tout son environnement. C'est aussi les mobilités douces, l'accessibilité de transport, le mode de chaleur. Enfin, voilà, vous pouvez avoir des chaufferies biomasse, par exemple. Donc, c'est bien une conception globale, en fait, d'un quartier qui va répondre à cet enjeu de la ville bas carbone de demain.
Moi, je trouve ça passionnant. La puissance, l'engagement que vous avez avec vos équipes sur ces sujets qui sont majeurs pour l'équilibre de vie des Français. Moi, je suis très heureux d'entendre effectivement qu'on parle de santé publique, d'amélioration des conditions de vie, et je pense que ce que vous faites en est également l'illustration. Un immense merci d'être venu sur le plateau, Anne-Sophie Grave. Je rappelle que vous êtes la présidente du directoire de CDC Habitat, et on va se retrouver bientôt, puisqu'on va se retrouver à H-Expo, le congrès de l'Union sociale pour l'habitat, qui aura lieu à Paris cette année, Porte de Versailles, du 23 au 25 septembre.
Bien, merci à Radio Immo, bon salon ici du CIPCA et à bientôt au congrès USH.
Merci à vous, il est 11h32. On enchaîne avec la table ronde de nos amis de prestataires. On va parler de certification avec Bérénice de Villeperlieu, à qui je vais céder le micro. À tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.